Chapitre 6e, mes débuts dans la médecine. Ici se terminent momentanément mes voyages. J'arrive à l'époque où, dans des circonstances bien singulières, j'essayais de m'établir comme médecin. Un livre que je publiais quelques années plus tard sous le titre de « Lettres de Stark Munro » a déjà fait connaître en tout son détail cette période de ma vie. Le lecteur l'y trouvera plus clairement et abondamment relaté qu'elle ne saurait l'être dans les limites de ses pages. Je ferai seulement observer, pour le cas où l'on chercherait à reconstituer, d'après les lettres de Stark Munro, mon personnage ou ma carrière, que le livre contient quelques incidents imaginaires et que, notamment, ce n'est pas à moi, mais à un de mes amis, qu'est arrivée l'histoire du fou et de Lord Saltire, racontée au chapitre 4. En revanche, l'histoire de mon association avec l'individu que j'ai nommé Cullingworth, son caractère extraordinaire, notre séparation, et comment je restais dans une situation assez proche de la ruine, tout cela est l'exactitude même. En voici simplement l'essentiel. Au cours de ma dernière année d'études à Édimbourg, je m'étais lié d'amitié avec ce Cullingworth, étudiant comme moi, garçon remarquable, et qui appartenait à une famille médicale très réputée. Son père avait, le premier, fait la distinction entre le typhus et la typhoïde. Il avait également de quoi tenir comme athlète, et il était un grand avant de rugby, quoiqu'un peu desservi par l'impétuosité frénétique de son jeu. Il s'était élevé jusqu'à la qualité d'international, et de bon juge considérait son frère cadet, Arthur, comme le meilleur avant qui eût jamais revêtu le jersey d'Angleterre brodé d'une rose. Cullingworth était vigoureux de corps autant que d'esprit. Il mesurait, en hauteur, environ 5 pieds 9 pouces, et il était parfaitement bâti, avec une mâchoire de bulldog, des yeux injectés de sang et profondément enfoncés dans l'orbite, des sourcils en surplomb. Sur son crâne se hérissaient des cheveux jaunâtres, raides comme du fil de fer. Né pour le tracas et l'aventure, libre de préjugés dans le dessin, formidable dans les moyens d'exécution, homme d'action avant tout, il avait, pour se guider dans l'acte, une intelligence puissante mais déconcertante. Il mourut au premier temps de sa maturité. L'autopsie révéla chez lui, paraît-il, un cerveau anormal. Il n'est donc pas douteux qu'un caractère si étrangement explosif eût quelque chose de pathologique. Je ne sais pour quelle raison Cullingworth prit d'attachement pour moi. Il semblait prêter à mes avis une importance excessive. Le jour où je le rencontrai pour la première fois, il venait de se livrer à une de ces incartades qui se terminaient généralement par des coups de poing ou par une comparution devant un tribunal de police. Mais les suites en devaient être cette fois plus sérieuses et plus durables. Il avait enlevé une jeune fille encore mineure et en tutelle. Ce qui était fait, tous les juges du monde ne pouvaient le défaire. Il ne pouvait que punir le coupable. Cullingworth me raconta comment, avec la jeune personne, il avait cherché dans un indicateur des chemins de fer une localité dont ils n'eussent jamais entendu parler, afin d'y aller passer leur lune de miel, et qu'ayant déniché un nom baroque, Claude Paul sur Marais ou tel autre de ce genre, ils étaient allés s'installer dans l'auberge du village. Cullingworth avait teint en noir ses cheveux jaunes, mais la teinture n'avait adhéré que par places, si bien qu'on l'eût pris pour un échappé de chez Barnum. Je conçois mal ce que les gens, à Claude Paul sur Marais, durent penser de ce couple extraordinaire. Assurément, ils n'avaient jamais eu si belle occasion d'exercer leur langue, et Cullingworth n'aurait pu choisir, pour déchaîner la publicité, un meilleur moyen que celui dont il se servit pour échapper aux recherches de la justice. À Londres, il eût passé tout à fait inaperçu. Pendant des années, sa chevelure offrit des irisations singulières, vestiges de son déguisement. Il emmena sans encombre sa femme à Édimbourg, où ils louèrent un appartement et où ils vécurent n'ayant de meubles que le strict nécessaire. J'ai, certains soirs, dîné avec eux d'un chausson aux pommes. Les sièges manquants, une pile de gros bouquins nous en tenait lieu. Nous présentâmes le ménage à quelques amis. Nous fîmes de notre mieux pour égayer la solitude de la jeune femme. Un beau jour, ils disparurent et pendant quelque temps, nous n'en eûmes plus de nouvelles. À la veille de partir pour l'Afrique, je reçus de Cullingworth un long télégramme appelant d'urgence à Bristol. Il avait, me disait-il, besoin d'un avis. J'étais alors à Birmingham. Je partis d'Ardar. À Bristol, Cullingworth me conduisit dans une belle maison où il me dévida le chapitre de ses malheurs. Il avait voulu faire, comme médecin, un départ de grand style, espérant ainsi rallier ce qui restait de la clientèle de son père. Mais son argent s'était vite épuisé. Ses fournisseurs le persécutaient. Il n'avait pas de malade. Que faire? Nous nous donnâmes 2 jours de bon temps, car il régnait autour de cet homme une atmosphère de folle insouciance qui noyait tous les ennuis. Le seul conseil que je pus lui donner fut de s'arranger avec ses créanciers. Je sus plus tard que, les ayant réunis, il leur avait fait un discours si émouvant qu'il leur avait presque arraché des larmes, et dans un vote de confiance unanime, il lui avait accordé la faculté de se libérer à sa convenance. C'était bien ce qu'il pensait faire. Lui-même conta cela, ultérieurement, avec un rire énorme qu'on dut entendre au deux bouts de la rue. J'étais revenu d'Afrique depuis 2 mois quand je reçus de lui un autre télégramme, car il télégraphiait toujours, jamais il n'écrivait. J'en ai retenu à peu près les termes. « Et débuté ici juin dernier. Succès colossal. Arrivé par premier train si possible. Largement place pour vous. Perspective magnifique. » Le télégramme venait de Plymouth. Un second, encore plus débordant, me gronda de mon retard et me garantit, dès la première année, 3 000 livres. Je crus voir là une affaire. Je partis. Ce qui se passa dans les 6 semaines d'après, entre les derniers jours du printemps et les premiers de l'été de 1882, conviendrait mieux à un roman fantaisiste qu'à une chronique exacte. La situation au milieu de laquelle je tombais à Plymouth était proprement incroyable. En quelques semaines, Cullingworth, qui tenait pour une part égale du génie et du charlatan, s'était créé une clientèle qui représentait un bénéfice annuel de plusieurs milliers de livres. Consultation gratuite, on ne paye que les remèdes. C'était sa devise. Comme il mettait les remèdes au prix fort, il arrivait quand même à ses fins. Les simples mots « consultation gratuite » lui attiraient des foules. Il prescrivait des drogues héroïques, sans discrimination, ce qui produisait des résultats impressionnants, mais ne laissait pas d'entraîner des risques injustifiables. Par exemple, on parla beaucoup d'un cas d'hydropisie dont il eut raison avec de l'huile de croton à dose massive. Les gens affluaient chez lui de 20 à 30 000 à la ronde. Non seulement ses salles d'attente, mais ses escaliers, ses corridors, regorgeaient de visiteurs. Il rugissait, poussait les hauts cris, querellait ou plaisantait les clients, les bousculait, les poursuivait parfois dans la rue et d'autres fois les haranguait tous ensemble du palier de l'étage. Une matinée chez lui, à l'heure où sévissait la rafale, avait la drôlerie de n'importe quelle pantomime et je n'en pouvais plus de rire. Il possédait un gros livre en mauvais état, qu'il prétendait être la Bible, quand c'était un simple traité de jurisprudence médicale. Il s'en servait pour faire jurer sur lui aux vieilles dames qu'elles ne boiraient plus que du thé. Je ne doute pas d'ailleurs qu'il n'exerçât une action très bienfaisante, car dans ce qu'il faisait se cachait beaucoup de raison et de savoir, mais la manière dont il le faisait était aussi peu orthodoxe que possible. Sa femme exécutait ses ordonnances derrière un guichet, au bout d'un corridor, et percevait le prix marqué sur la fiche apportée par le malade. Il habitait un grand appartement très élégant sur le Howe. Chaque soir, il y rentrait, portant sa recette dans une sacoche, le veston flottant, le chapeau rejeté sur la nuque, et il riait de toutes ses canines chaque fois qu'à une fenêtre apparaissait la mine dégoûtée d'un médecin. Cullingworth m'avait aménagé un cabinet garni d'une table et de 2 sièges. Il m'y laissait traîner les cas chirurgicaux ou autres dont il ne tenait pas à s'occuper. Sans doute mes façons professionnelles devaient être d'un médiocre effet sur les gens auprès de ces flambantes méthodes que, l'eussé-je voulu, je n'aurais pas su imiter. Cependant, j'avais ma petite clientèle régulière, sur laquelle il me semblait pouvoir tabler. Je me rendis un jour à la campagne, où j'opérai un vieux bonhomme d'un chancre au nez déterminé par le voisinage trop assidu d'un brûle-gueule. Je le laissai en possession d'un organe aristocratique, pour ne pas dire hautain, qui émerveilla le village et eût pu devenir le fondement de ma renommée. Mais d'autres influences étaient en œuvre. Le destin filait ses toiles là où je m'y serais le moins attendu. Ma mère avait grandement pris ombrage de mon association avec Cullingworth, et son orgueil familial s'était ému. Mais j'éprouvais de la sympathie pour Cullingworth, je pris sa défense, je résistai à ma mère. Elle ne fut que plus contrariée et m'écrivit des lettres de reproche où, certainement, elle s'exprimait sur le compte de mon ami avec une entière franchise. Comme je laissais traîner mes papiers, ces lettres furent lues par Cullingworth et par sa femme. Je ne les calomnie pas en disant cela, car ils finirent par le reconnaître. Apparemment, Cullingworth s'imagina, étant un homme bizarrement soupçonneux et porté aux manigances secrètes, que je partageais les sentiments de ma mère envers lui, quand, tout au rebours, je les provoquais en prenant sa défense. Dès lors, il changea complètement d'attitude à mon égard. Plusieurs fois, je surpris ses yeux gris impitoyables qui me regardaient à la dérobée d'un air si singulier, si maussade, que je lui demandais ce qu'il avait. Il méditait simplement ma perte, ce qui ne pouvait avoir d'importance, financièrement parlant, puisque je n'avais rien à perdre, mais en aurait beaucoup pour ma mère et pour moi s'il touchait à mon honneur. Il m'aborda un jour pour me dire que, tout considéré, ma présence compliquait ses affaires et que mieux valait nous séparer. J'y consentis de bonne grâce. Je n'étais pas, lui déclarai-je, venu chez lui pour lui porter préjudice, et je lui exprimai ma reconnaissance de ce qu'il avait fait, dussions-nous en rester là. Il me conseilla vivement de pratiquer pour mon compte. À l'objection que je n'avais pas de capital, il répondit qu'il y pourvoirait en m'allouant une livre par semaine jusqu'au jour où j'aurais une situation stable et que je le rembourserais à loisir. Je le remerciai chaudement. Ma première idée fut de m'établir à Tavistock, mais je réfléchis ensuite que Portsmouth m'était mieux indiqué, pour la raison que je savais les conditions du métier à Plymouth et qu'à Portsmouth, elles semblaient être analogues. Je retins donc ma place à bord d'un vapeur irlandais, et vers le mois de juillet de 1882, je me mis en route par mer, emportant dans une petite malle tous mes biens terrestres, pour aller exercer ma profession dans une ville où je ne connaissais pas une âme. Je ne possédais pas 10 livres d'argent liquide, et il me faudrait là-dessus non seulement payer tous mes frais immédiats, mais me procurer des meubles. D'autre part, il est vrai, la livre hebdomadaire que Cullingworth m'avait promise suffirait amplement à tous mes besoins personnels, et quant à l'avenir, j'avais l'optimisme souriant de la jeunesse. Arrivé à Portsmouth, j'y louai un garni pour la semaine. L'étrange faculté que j'ai toujours eue de me jeter dans les drames fit que, dès le soir même, je me coltais dans la rue avec un Borien qui malmenait ou, plus exactement, frappait à coups de pied une femme. C'était me manifester de façon peu commune. Quand, à quelques jours de là, je débutais comme médecin, le premier individu à qui j'ouvris ma porte n'était autre que mon drôle. Je ne crois pas qu'il me reconnut, mais je n'en jurerais pas. Je me tirai de l'affaire sans dommage, heureux d'échapper à un scandale. C'était la seconde fois que je rompais des lances pour la beauté en détresse. Je passai la semaine à visiter des maisons inoccupées, et je finis par louer, pour le prix de 40 livres par an, la villa du Buisson, qui doit aujourd'hui à l'amabilité de son propriétaire la dénomination de Doyle House. Je tremblais que l'agent ne me demandât des arts, mais le nom de mon oncle, compagnon de l'ordre du Bain, que je lui donnais en référence, parla suffisamment en ma faveur. La clé de la maison dans ma poche, j'allai à Portsea, où, dans une vente publique, j'achetais, pour 4 livres environ, un lot de meubles de seconde main, sinon de 20e. Il ne m'en fallait pas davantage. J'aménageai une antichambre possible avec 3 chaises, une table et une carpette de milieu. À l'étage supérieur, j'arrangeai une espèce de lit avec un matelas. Je fixai à ma porte la plaque dont je m'étais muni à Plymouth. Je fis, à crédit, l'emplette d'une lanterne rouge. Je n'avais plus qu'à attendre le client. Il ne me restait plus pour toute fortune que 2 livres. Bien entendu, la question d'un domestique ne se posait pas. Chaque matin, je fourbissais moi-même ma plaque, je balayais le devant de ma porte, je donnais à la maison un air d'honnête propreté. J'étais capable de vivre sans aucune gêne pour moins d'un shilling par jour, ce qui me permettrait de tenir longtemps. J'avais à cette époque publié plusieurs nouvelles dans le London Society, un magazine aujourd'hui défunt, qui florissait alors sous la direction d'un certain M. Hogg. Dans son numéro d'avril 1882, il m'avait inséré un court récit intitulé « Des os », fort heureusement oublié à l'heure présente. Un autre, le ravin de Bloomansdyke, l'avait précédé de quelques mois dans le numéro de Noël. Tous les deux n'étaient que de pâles reflets de Bret Hart. Avec les nouvelles dont j'ai déjà parlé dans ses mémoires, c'était pour l'instant tout mon bagage. J'exposai ma situation à M. Hogg, et j'écrivis à son intention, pour son numéro de Noël suivant, un nouveau conte ayant pour titre « Mon ami l'assassin ». Hogg se conduisit fort bien envers moi. Il m'envoya 10 livres que je mis de côté pour mon terme. Je fus moins content de lui quelques années plus tard quand il revendiqua la propriété de ses essais juvéniles et les réunit en un volume portant mon nom. « Prenez vos précautions, jeunes auteurs, prenez-les bien, ou votre pire ennemi sera vous-même. » Ce fut une chance pour moi que d'avoir ces 10 livres, car Cullingworth, sitôt qu'il me vit engagé à fond et lié par un bail, lança contre moi ses foudres, pensant m'anéantir. Je reçus de lui, non point, par extraordinaire, un télégramme, mais un billet fort sec, dans lequel il reconnaissait avoir lu des lettres que j'avais échangées à son propos avec ma mère. Une telle correspondance, alors que j'étais sous son toit, avait, disait-il, de quoi le surprendre. Désormais, il ne pouvait plus rien faire pour moi. Je conviens de bonne foi que, sans avoir aucun grief réel, Il croyait en avoir, mais cette façon de se venger n'illustrait pas moins les imaginations d'un esprit morbide. Je demeurai un instant atterré, mais j'avais brûlé mes vaisseaux, je devais aller de l'avant. J'envoya à Cullingworth une réponse ironique et l'exclus pour jamais de ma pensée. Je n'eus plus de ses nouvelles que 5 ans après, en lisant l'annonce de sa mort prématurée. C'était un homme remarquable, qui ne manqua que de peu à être un grand homme. Je crains qu'ayant vécu trop largement, il n'ait laissé sa femme dans la gêne.